Pour Capri Service, faites 2 ans d'existence avec les étudiants de l'Université de Kinshasa. Ça sera ce vendredi 30 septembre 2011 de 9h à 11h, heure de Kinshasa, en direct de la colline inspirée. Un rendez-vous spécial à ne pas manquer dans la salle Lotus-Villa. Pour réactions et suggestions, sont les bienvenus au 081 890 394. Écrivez-vous aussi par SMS au 081 070 2530. Pour Capri Service, à votre service.
Au Capri Service en direct de l'Université de Kinshasa, nous sommes dans la salle Luc Zilon. À présent, nous allons parler emploi. Vous savez, trouver un emploi décent est devenu un casse-tête pour bon nombre de diplômés fraîchement sortis de l'université. Pour certains, il faut avoir un frère, un ami ou un cousin dans une boîte pour être retenu après un test. Pour d'autres, appartenir à une organisation quelconque qualifie pour un emploi rémunérateur et une promotion rapide. Alors, face à toutes ces préoccupations, quelles sont les techniques de recherche d'emploi? Alain Poutou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes expert en ressources humaines. Dites-nous aujourd'hui, dans les contextes actuels, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un emploi décent?
Merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie tout l'auditoire pour cette opportunité. Vous avez bien fait que cette émission soit passée à l'université parce que le victime du chômage, c'est plus les gens qui sortent de l'université. Vous allez trouver actuellement, lorsqu'on lance les offres d'emploi, on demande 2 à 3 ans d'expérience professionnelle.
Voire même 5 ans.
Les gens qui sortent de l'université, ils sortent avec les théories, mais ils n'ont pas encore la réalité du terrain. Ce qui fait que pour certains postes, les gens se sentent déclassés. Vous allez vous rendre compte, on lance une offre d'emploi, on cherche un chargé de suivi et évaluation de projet. Tandis qu'à l'université, il n'y a pas une option en suivi et évaluation. Donc on a besoin plus d'un praticien, de quelqu'un prêt à utiliser sur le terrain. C'est ce qui fait que beaucoup de gens qui terminent, ils ont du mal à affronter la vie professionnelle. Oui. Mais cela n'est pas un problème. Nous allons un peu donner les techniques pouvant permettre à ces gens-là d'affronter la vie professionnelle.
Voilà, quelles sont ces techniques alors?
La première technique, je vais commencer en disant ceci. La personne qui cherche le travail doit d'abord connaître les marchés. Vous allez vous rendre compte actuellement, le marché de l'emploi est considéré par les organisations internationales. Je crois que même l'auditoire est d'accord avec moi. Je n'ai jamais vu une offre d'emploi lancée par la DGI ou lancée par la DGRAD ou par l'OCDE. Ça n'existe pas. On voit souvent quand on va aux médias Congo, on va même à la radio Capri vous publier des offres d'emploi. Ce sont les organisations internationales qui recrutent. Donc les ONG, le marché est dominé à 92% par les organisations internationales. Et leur système de travail ne correspond pas à ce que nous avons appris à l'université. Je vais vous dire ça, c'est depuis 2006 que je suis dans des organisations internationales, ça fait presque 5 ans aujourd'hui. Ce que je fais dans mon parcours supérieur universitaire ne correspond même pas à ce que je suis en train de faire sur le terrain. Ce qui m'a renforcé, c'est quoi? Ce sont des formations professionnelles. La deuxième technique, je dirais qu'il faut d'abord la première, il faut connaître le marché. Actuellement, c'est les ONG qui recrutent. Les gens doivent comprendre le système du travail des organisations internationales. Il ne faut pas que les gens restent dans la confusion parce qu'il est, par exemple, en première année gradué en droit, il se dit, il est maître. Non, le terrain, c'est autre chose. L'université aussi, c'est une autre chose. La deuxième technique, la personne doit faire ce qu'on appelle les SIM, donc les systèmes d'information marketing. C'est-à-dire, prenez le temps, vous voulez postuler, par exemple, à l'UNICEF, allez via l'Internet, au lieu de perdre votre temps en train de travailler sur le Facebook, essayez un peu d'entrer dans le site Internet de l'UNICEF. Ayez quand même une idée claire. Qu'est-ce que l'UNICEF? Quelle est la mission principale de l'UNICEF? Quels sont les domaines d'intervention de l'UNICEF? Où est-ce que l'UNICEF intervient? Donc, afin que vous ayez une idée claire sur le système là où vous voulez travailler. Vous avez quand même une idée, par exemple, je prends les organisations internationales. Souvent, on cherche des assistants au programme. Ces organisations-là, même si vous avez votre licence en économie ou en sciences commerciales, les comptables de l'UNICEF n'ont pas la même comptabilité que quelqu'un qui a fini ici à l'université. Donc, il faut avoir une idée claire. Quels sont leurs domaines d'intervention? Cherchez un peu à comprendre quels sont les postes qui reviennent régulièrement dans les autres
pays. Il y a une question de l'autre côté. Allez-y, camarades. Vous avez la parole.
Oui, le étudiant Tekila Kassongo, 4e année de droit.
Oui, Tekila.
Oui, je voudrais simplement faire une petite remarque pour dire que l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans notre pays est bien plus qu'une casquette. Parce que le critère de sélection de base, lorsque vous quittez l'université, on vous demande d'avoir une expérience à la moyenne de 3 ans.
Oui.
Or, comment voudriez-vous que de têtes bien fraîches sa saison au monde du travail avec une expérience de 3 ans. C'est très difficile. Donc, c'est déjà le premier embus qui empêche les jeunes d'accéder directement au monde du travail. D'autres embus également tiennent à ce que le monde du travail apparaît beaucoup plus comme un cadre vraiment très bouché. Donc, c'est vraiment, il faut peut-être passer par des systèmes de parrainage, vous en entendez parler. Bon, ce sont des réalités de terrain qui bloquent les jeunes à accéder facilement, surtout que nous vivons dans un pays où les emplois ne sont pas, des emplois étatiques ne sont pas vraiment très courants. Oui. Voilà.
Merci, camarade. Une autre question?
Oui, allez-y. Ouais, c'est l'étudiant Trésor Chaco.
Oui, Trésor.
Je suis en troisième cycle, simplement parce que j'ai cherché du boulot pendant 2 ans et je n'ai pas trouvé. Je me suis décidé carrément d'entamer un troisième cycle, alors que c'est l'opposé que c'est.
Oui.
Parlant de méthode, je crois que c'est vraiment pas trop probable ici en RD, Congo. Même les organismes demandent une expérience professionnelle d'au moins 5 ans. J'ai l'expérience, j'ai déposé partout, à l'UNICEF, je ne sais. Vraiment, c'est très costaud. Et vos méthodes, à vous, j'aimerais vraiment qu'ils soient vraiment très prouvées pour que nous espérons trouver de l'emploi au Congo, parce que c'est vraiment un casse-tête comme le présentateur l'a dit.
Merci, Président. Mais c'est qui l'a dit que c'est plus un casse-tête? Voilà, une autre question dans la salle.
Oui. Ramazan Akwabi, faculté de médecine, premier doctorat.
Et Ramazan.
Oui, je voulais insister sur les problèmes des expériences, les années des expériences.
Oui.
Pendant nous, à médecine, pour sortir à médecine, nous faisons un stage de 18 mois, par exemple. Alors, je voulais savoir, l'expérience qu'on est en train de demander, quelle est l'importance de notre stage? Parce que nous payons en stage.
Merci, Ramazani. Alain Koutou, vous avez la parole.
Je commence par répondre au premier...
Monsieur Tekila, qui
a posé la question par rapport aux expériences professionnelles.
Je vois
l'avoir dit tout à l'heure ici. Vous allez voir dans le formulaire P11 du système des Nations Unies, on demande souvent si vous connaissez quelqu'un ici à l'intérieur. Parce qu'il y a toujours des témoignages. Vous allez même voir dans le nouveau modèle du CV actualisé. On demande 3 références.
Oui.
Il faut qu'il y ait toujours des gens qui vont témoigner favorablement pour vous. Parce que le principe est que moi, je dis souvent, les gens qui postulent, leur problème, c'est quoi? Ils ont des ambitions. Les gens n'ont pas la vision. Vous sortez de l'université, vous voulez aller sur le marché de l'emploi. Il ne faut pas être trop pressé. Parce que le terrain, c'est autre chose. Ayez d'abord l'information. Demandez par exemple à quelqu'un qui travaille dans une des agences des Nations Unies qui vous parle un peu sur les techniques d'interview. Il y a des gens, vous n'avez pas encore travaillé. Vous allez postuler. On vous pose la question d'interview. Quelle est votre prétention salariale? Parce que vous êtes licencié, vous fixez le salaire. En fonction de quoi vous êtes en train de fixer ce salaire-là. Ce qui fait que par moment, on vous dira, ok, d'accord, monsieur, nous allons vous contacter. On ne vous contacte pas. Ils n'ont pas le temps de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on vous a déclassé. Donc, je dis que la première des choses, il faut faire la planification professionnelle. C'est une idée claire sur le marché. De deux, récolter les informations par rapport à l'organisation. Je donne un exemple. Vous êtes licencié en sciences politiques et administratives.
Oui.
Vous voulez aller postuler à l'UNICEF. Je crois qu'il faut avoir une idée claire. Qu'est-ce que c'est l'UNICEF? Quelles sont les compétences que l'UNICEF a déjà en lui, mais quelles sont les compétences qui manquent? C'est comme ça qu'on fait la gestion provisionnelle des emplois.
Okay.
Vous pouvez par exemple avoir votre licence en droit. Vous allez postuler dans une organisation qui a déjà un conseiller juridique. Vous partez aussi postuler avec votre lettre là de « je cherche un poste vacant, je suis conseiller licencié en économie ». Ça ne peut pas passer parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est dedans.
Oui.
Vous devez comprendre qu'est-ce qui manque, non seulement rencontrer aux besoins, mais créer un autre besoin. C'est là où il y a un problème.
Voilà. Et quelles sont les autres techniques pour arriver à trouver facilement un emploi?
La troisième technique, c'est ce que j'appelle la loi de la complémentarité ou la reconversion professionnelle.
C'est-à-dire,
quelqu'un qui a fait les droits, au lieu de rester toujours chercher des travail comme un conseiller juridique, vous pouvez faire une autre formation professionnelle qui peut vous aider à postuler quelque part. Comme ça, sur le terrain, on va vous découvrir, on va découvrir votre licence en droit.
Oui.
Je vous donne un exemple d'une des agences internationales ici de la place. J'ai rencontré un monsieur, il est licencié en agronomie, mais c'est le chargé de finances. Je lui ai posé la question, comment est-ce qu'on va se retrouver ici? Je lui ai dit, monsieur, écoutez, je suis entré ici d'abord comme un dépositaire, quelqu'un qui gérait les dépôts dans le logistique.
trouvé, il y avait une vacance interne, j'ai postulé. La personne qui était au poste devait aller en mission, on devait initier ailleurs. Il m'a initié rapidement, c'est comme ça que je me retrouve ici. Mais je crois que si cette personne-là qui a fait l'agronomie pouvait toujours attendre à trouver le travail chez FAO ou au ministère de l'Agriculture, je ne pense pas que la personne va se retrouver. Donc,
il faut comprendre un peu l'évolution du terrain. Voilà. Et la question de Ramazani qui a dit quelle est l'importance du stage. Si on demande 5 ans, 3 ans de présence professionnelle, alors le stage, ça sert à quoi?
Oui, vous êtes journaliste, vous êtes dans les Nations Unies, je crois que vous comprenez très bien. À l'UNICEF, à l'OMS, il y a des médecins. Mais je peux vous dire que ces médecins ne sont pas là pour faire des interventions chirurgicales. Ils n'opèrent pas les gens. Ils travaillent dans l'administration. Ils travaillent dans des programmes. On a programme protection, oui. Programme santé de reproduction. Quand ils sont là, ils ne sont pas là pour opérer. Les stages que vous avez effectués à l'université, c'est le stage par rapport, par exemple, à des polycliniques. Mais vous n'avez pas passé le stage par rapport au système des organisations internationales. Je prends le cas de MSF, Médecins Sans Frontières Hollande, qui cherche quelqu'un qui devait aller travailler dans les camps des réfugiés.
Oui.
Je crois que le médecin qu'on a besoin, ce n'est pas un médecin qui doit opérer. Le médecin qui doit mobiliser le sens et le partenaire. Le médecin qui doit élaborer le plan de suivi et d'évaluation de
l'activité dans
l'administration. Oui. Alors, et quand il termine à l'université, comme il fait la médecine, dans sa tête, il ne voit que polyclinique, il voit des hôpitaux, il ne peut pas penser qu'il peut se retrouver quelque part.
Voilà.
C'est là où il y a un problème aussi.
C'est là où il y a le problème. Merci Alain Poutou, merci chers camarades étudiants de la commune inspirée. Alors, nous allons prendre les trois dernières questions par rapport au marché de l'emploi. Oui, camarades.
Oui, André, la deuxième.
On vous écoute, André.
André, la deuxième.
Oui.
Nous, qui dit qu'il faudrait connaître le marché,
oui.
Le système d'information du domaine technique, il y a aussi la loi de la complémentarité.
Oui.
Tout ça, c'est bien beau. Les chrétiens disent que mentir, c'est un péché. Mais le diplomate lit de mon frère.
Il fait quoi alors?
Il défend son pays. C'est pour les intérêts du pays qu'il parle. Mais il ne ment pas. Mais revenons à ce que nous disons.
Mmh.
Aujourd'hui, tous ceux qui terminent deviennent des menteurs. Leur CV est truffé de mensonges pour remplir seulement la seule condition d'avoir 5 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Tout le monde devient
menteur.
Tout le monde travaille, se dit non, je travaille dans telle ONG, dans telle. Et quand vous vérifiez, il n'y a rien de travail. Vous comprenez? Alors, quand bien même qu'il faut connaître le marché, qu'il faut connaître le système d'information, tout ça, mais comment pallier à ce problème d'expérience d'étudiant? Parce que tout le monde ne peut pas être garçon, tout le monde ne peut pas être recruté pour entrer dans tel, puisqu'il faut connaître tel point de telle obédience, mais que faire pour pallier à cette question?
Merci, camarade. Merci. Une autre question, oui?
Oui, merci. Merci beaucoup, c'est le studio Bélessi, Soula.
Oui, Bélessi.
Je suis de la 4e année de droit.
J'aimerais poser une petite question. Parce que je vois notre. Il s'appelle comment encore?
Alain Poutou.
Alors, il a mis un aspect particulier quant au recrutement, bien entendu, des jeunes universitaires.
Oui.
Bon, finalement, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il met un accent particulier sur le recrutement des jeunes par les organisations, par les jeunes. Je pense que finalement, ce n'est pas le rôle des ONG de recruter ou de. C'est plutôt le gouvernement congolais qui devrait en principe créer des emplois.
Mmh.
Et finalement, nous n'avons pas travaillé pour ces organisations-là d'une manière permanente. Nous devons beaucoup plus travailler pour notre pays et pour que le pays aille de l'avant. Parce que finalement, on ne comprend pas qu'est-ce que fait le gouvernement pour la politique du gouvernement pour justement créer des emplois.
Créer des emplois.
Merci, camarade. Et donc, une question dans la salle.
Oui. Merci beaucoup, c'est monsieur le président du siège de la 7e année de droit.
Oui, plaisir.
En fait, je remercie d'abord le monsieur
Alain Poutou, oui.
Et donc, j'avais une petite question à lui poser, mais comme il n'y a pas de temps, 28.
28, c'est ça.
Mais comme il n'y a pas de temps, j'en pose deux.
Allez,
la première, c'est celle-ci. J'ai constaté que tous les ingrédients sont rassemblés dans la sauce pour maîtriser, critiquer et minimiser l'étudiant congolais. Monsieur Alain, ne voyez-vous pas que la sous-estimation, parce que à chaque fois que l'étudiant congolais est maîtrisé, ils se sont aussi découragés à un moment donné. Il faut pas que la sous-estimation de l'étudiant peut aussi faire en sorte qu'aujourd'hui il y a le chômage dans notre pays. Et la deuxième question, j'applaudis vos interventions, et tout le monde de demain, excusez-moi, pour cette tournée diplomatique, parce qu'il me renforce l'idée de mon affirmation. Juste, vous êtes trop charitable. Et vous ne savez pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quelles sont les techniques que vous avez employées pour devenir aujourd'hui cadre de quelqu'un qui est engagé quelque part? Je ne sais pas si vous venez répondre à cette question.
Merci, plaisir. Alors, une dernière intervention, quelque part. Oui, camarade.
Oui, alors moi c'est M. Taleb Kazadi, première licence relations internationales.
Oui, Taleb.
Monsieur l'expert en ressources humaines. En tout cas, se trouver un emploi aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est quelque chose de très difficile et quasi incertain. Et il y a des agences qui ont profité de cette situation pour se faire un peu Alors, qu'est-ce que ces agences font? Elles s'implantent ici et elles recrutent les gens. Vous allez là-bas, vous déposez vos CV. Alors, ce sont ces agences-là qui ont cherché des emplois pour vous. Et quand, si par chance vous êtes employé, quand on va vous payer, c'est pas vous qui irez percevoir votre
agence.
C'est l'agence qui va prendre le salaire et là, elle prélève un pourcentage sur votre salaire. Alors, monsieur, trouvez-vous que c'est vraiment une meilleure façon de chercher de l'emploi en RDC?
Merci, camarade Taleb. Alain, peut-être vous avez la parole.
Je commence par la question de monsieur Ramazani.
Oui, qui a parlé d'un CV et de mensonges, les gens sont obligés de mentir. Mais dans leur CV, ils font des choses qu'ils n'ont jamais faites, tout simplement pour donner beaucoup plus de poids.
Dans les techniques du recrutement et de la sélection, on commence d'abord par la présélection. On voit les dossiers que la personne avait envoyés, on doit cliquer. Même si la personne a menti, on peut l'appeler pour qu'il vienne passer l'interview. Et dans l'interview, qu'on aura exactement si cette personne ici, si c'est lui qui a fait ce CV, et si réellement il a travaillé. Il y a des étapes dans le recrutement.
Oui.
Vous allez voir, par exemple, dans les 12 techniques d'interview, je ne peux pas aborder ça ici parce qu'il n'y a pas le temps. On peut facilement vous avoir pour les mensonges que vous avez envoyés dans les
CV. Et là, directement, vous avez déclassé.
Voilà.
Plaisir vous demande, il a l'impression qu'on est en train de sous-estimer l'étudiant congolais. Et il vous demande de parler des techniques utilisées par vous-même pour être ce que vous êtes aujourd'hui.
Merci. Je vais commencer à dire à cet ami ici, moi je fais le marketing, mais j'ai commencé à chercher des travaux comme marketeur, je n'avais pas trouvé. J'ai rencontré un monsieur qui travaille à la coopération britannique et qui m'a dit, écoutez monsieur, tout ce que tu es en train de chercher là, c'est en vain. La réalité actuelle, c'est des formations professionnelles. Parce qu'en sortant de l'université, tu es généraliste. Les organisations actuellement ont besoin de gens qui vont rapidement travailler. Vous allez voir un peu peut-être ce que je vois à la radio, Capim, mais dans d'autres agences, quand vous allez solliciter les stages, on n'accepte pas, tout le monde est occupé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être derrière vous pour vous initier. On a dit que c'est des formations, parce que des formations vous préparent pour aller sur le terrain. Ce que vous avez appris à l'université vous ouvre la tête. Vous avez l'ouverture d'esprit. Mais la réalité du terrain, c'est autre chose. J'ai pris le temps, j'ai payé le prix. De suivre, je vous dis que je ne suis pas pour me vanter. J'ai à peu près 22 formations professionnelles à part mon background en marketing. Et c'est ce qui fait de moi aujourd'hui, je ne travaille pas dans le marketing. Je suis en administration, on m'appelle quelque part comme consultant en sujet d'évaluation. Je donne le meilleur de moi-même et c'est comme ça que je suis en train d'évoluer. Donc moi, je leur conseille, c'est vrai, pour ce qui concerne le gouvernement, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, c'est la responsabilité du gouvernement. Je suis en train de travailler sur un projet de la création du ministère d'entrepreneuriat et insertion des jeunes diplômés. Je fais la gestion provisionnelle des emplois et des compétences. J'ai compris qu'il y a possibilité qu'on puisse même réduire le chômage. Le problème, c'est quoi? C'est le problème là d'insertion professionnelle. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de plan d'action.
Il n'y a pas une politique.
Oui, il n'y a pas.
Alors, la question de Taleb, il parle de la sous-traitance, des agences de recrutement qui retiennent un pourcentage sur les salaires. Et il dit, est-ce que c'est une bonne chose ou pas?
Moi, personnellement, je ne suis jamais passé par ces agences-là. Pourquoi? Parce que même l'air technique de recrutement, c'est pas bon. J'avais passé un test quelque part dans une des agences privées de placement qui cherchait un assistant comptable. À ma connaissance, je suis dit, lorsqu'on veut recruter un assistant comptable, on doit appeler les comptables de cette entreprise, doit assister au recrutement. Mais eux m'appellent l'air comptable pour qu'ils puissent me faire passer les tests. Ils ne connaissent pas le système de la comptabilité de cette organisation. Ils vous font passer les tests selon ce qu'ils pensent. Donc je trouve un peu que, bon, en fait, ce sont des entreprises, ils font leur business. Et moi, je conseille aux gens de traiter directement avec l'employeur.
Merci Alain Poutou, expert en ressources humaines. Merci, chers camarades, pour toutes vos questions. Merci Alain et à la prochaine.
Merci.